Deuxième partie, Comporellon. Chapitre 3. À la station d'entrée. 9. En pénétrant dans la chambre, Joie lança.
Trévise vous a-t-il dit que nous allions effectuer le saut et pénétrer d'un instant à l'autre dans l'hyperespace?
Pellerat, qui était penché sur son lecteur de disque, leva les yeux et répondit.
À vrai dire, il a simplement passé la tête et m'a dit « dans la demi-heure ». Je n'aime pas trop y penser, Pell. Je n'ai jamais aimé les sauts. Ça me fait une drôle d'impression d'être sans dessus-dessous.
Pellerat eut l'air un rien surpris.
Je ne vous avais pas imaginé en baroudeuse de l'espace, Joie chérie. Je ne le suis pas particulièrement, et quand je dis cela, je ne parle pas uniquement de mon aspect composante de Gaïa. Gaïa n'a, par elle-même, jamais l'occasion d'effectuer des voyages spatiaux réguliers. Par ma notre nature même, je nous n'explorons, commerçons, trafiquons pas dans l'espace. Malgré tout demeure la nécessité d'avoir certaines stations d'entrée, comme lorsque nous avons eu la bonne fortune de faire votre connaissance. Oui, Pell.
Elle lui sourit affectueusement.
Ou alors, pour visiter Seychelles et d'autres régions stellaires, pour diverses raisons, en général clandestines. Mais, clandestine ou pas, cela signifie toujours un saut, et bien entendu, chaque fois que l'un ou l'autre élément de Gaïa l'effectue, Gaïa tout entière le ressent.
« Voilà qui est bien fâcheux, » dit Pell.
« Ça pourrait être pire. Le plus gros de la masse de Gaïa ne subit pas le saut, de sorte que l'effet est largement dilué. Malgré tout, j'ai l'impression de le ressentir plus que la majeure partie de Gaïa. Comme je n'ai cessé de le dire à Trévise, même si tout l'ensemble de Gaïa est Gaïa, ses composants individuels ne sont pas identiques. » Nous avons nos différences, et ma composition est, pour quelque raison, particulièrement sensible au saut. Attendez,
dit Pellerat, se souvenant soudain.
Trévise m'a expliqué ça un jour. C'est avec les vaisseaux ordinaires que vous avez les pires sensations. À bord des vaisseaux ordinaires, on quitte le champ de gravité galactique à l'entrée dans l'hyperespace, et l'on y revient en regagnant l'espace normal. C'est ce changement qui produit la sensation. Mais l'étoile lointaine est un vaisseau gravitique. Il est indépendant du champ gravitationnel et ne le quitte ni ne le réintègre vraiment, raison pour laquelle nous ne sentirons rien du tout. Je puis vous l'assurer, chérie, par expérience personnelle. Mais c'est merveilleux. Je regrette de n'avoir pas discuté plus tôt du problème. Cela m'aurait épargné une considérable appréhension. Il y a encore un autre avantage.
Reprit Pellerat, qu'emplissait d'une soudaine allégresse ce rôle inhabituel de vulgarisateur en astronautique.
Le vaisseau ordinaire naviguant en espace normal doit s'éloigner à une assez grande distance des masses importantes telles que les étoiles pour être en mesure de procéder au saut. Une des raisons est que plus on est proche d'une étoile, plus intense est le champ gravitationnel et plus prononcées les sensations liées au saut. Et puis également, plus est intense le champ gravitationnel et plus se compliquent les équations qu'il faut résoudre pour mener à bien le saut et aboutir au point de l'espace ordinaire où vous avez choisi d'aboutir. Dans un vaisseau gravitique, en revanche, il n'y a pour ainsi dire pas de sensation de saut. De plus, ce vaisseau dispose d'un ordinateur considérablement plus avancé que les machines ordinaires, capable de manipuler des équations complexes avec une aisance et une vitesse inusitées. Le résultat est qu'au lieu d'être obligé de s'éloigner d'une étoile pendant une quinzaine de jours afin d'atteindre une distance sûre pour effectuer la manœuvre, l'étoile lointaine se contente de 2 ou 3 jours de trajet. Et ce, en particulier, parce que nous ne sommes pas soumis à un champ gravitationnel et par conséquent aux effets de la force d'inertie. Je reconnais ne pas bien saisir ce point, mais enfin, c'est ce que Trévise m'a dit. Ce qui nous permet d'accélérer bien plus rapidement que n'en serait capable n'importe quel astronef ordinaire.
« Impeccable, » dit Joie. « Et c'est à mettre au crédit de Trève qu'il soit capable de piloter ce vaisseau peu commun. »
Pellerat fronça légèrement les sourcils.
« Je vous en prie, Joie, dites Trévise. »«
Absolument, absolument. »«
En son absence, toutefois, je me relâche un peu. »« N'en faites rien.
N'allez pas encourager cette habitude, ne serait-ce qu'un peu, chérie. Il est tellement susceptible à ce sujet.
Pas à ce sujet.
À mon sujet. Il ne m'aime pas.
Ce n'est pas vrai, dit avec ardeur Pélorate. J'en ai parlé avec lui.
Allons, allons, ne froncez pas les sourcils. J'ai fait montre d'une extraordinaire discrétion, ma chère enfant. Il m'a assuré qu'il ne vous détestait pas. Il a certes des soupçons à l'égard de Gaïa et regrette d'avoir été contraint d'en faire l'avenir de l'humanité. Nous devons tenir compte de cela. C'est un sentiment qu'il surmontera en prenant graduellement conscience des avantages de Gaïa.
Je l'espère.
Mais ce n'est pas simplement Gaïa.
Quoi qu'il puisse vous raconter, Pelle, et rappelez-vous qu'il vous aime bien et ne veut pas heurter vos sentiments.
Il me déteste.
Non, Joie. Il en serait incapable.
Personne n'est forcé de m'aimer sous le simple prétexte que vous m'aimez, vous, Pelle.
Laissez-moi m'expliquer. Trévise
croit que je suis un robot.
Une expression de vif étonnement s'inscrivit sur les traits d'ordinaire placide de Pélorate.
Il ne peut certainement pas vous prendre pour une créature artificielle. Pourquoi serait-ce tellement surprenant?
Gaïa a bien été colonisée avec l'aide des robots. C'est un fait reconnu.
Des robots peuvent y avoir contribué, à l'instar de n'importe quelle machine. Mais ce sont bel et bien des gens qui ont colonisé Gaïa, des gens de la Terre. Voilà ce que pense Trévise, je le sais.
Il n'y a rien concernant la Terre dans la mémoire de Gaïa, comme je vous l'ai déjà dit à Trévise et à vous.
Toutefois, dans nos plus anciens souvenirs, demeurent encore quelques robots. Même après 3 millénaires, des robots œuvrant à parachever la modification de Gaïa en un monde habitable.
À cette époque, nous étions également en train de transformer Gaïa en une conscience planétaire. Cela a pris un long moment, Pelle chérie, raison de plus pour que nos souvenirs soient flous.
Inutile de faire intervenir leur effacement par la Terre, comme le pense Trévise.
« Certes, Joie, » dit Pélorate d'un air soucieux, « mais
les robots dans tout cela ?
Eh bien, tandis que Gaïa se formait, les robots sont repartis. Nous ne voulions pas d'une Gaïa avec des robots car nous étions, et sommes encore, convaincus qu'un composant robotique est, à longue échéance, nuisible à toute société humaine, qu'elle soit par nature formée d'isola ou bien planétaire. J'ignore comment nous sommes parvenus à cette conclusion, mais il est possible qu'elle soit fondée sur des événements remontant à une période particulièrement archaïque de l'histoire galactique, de sorte que les souvenirs de Gaïa ne remonteraient pas jusque-là.
Si les robots sont partis,
oui, mais certains sont restés.
Alors, si j'étais l'un d'eux, vieux peut-être de 15 000 ans,
Trévise le soupçonne.
Pélorate hocha lentement la tête.
« Mais vous n'en êtes pas un. »«
Êtes-vous sûr d'y croire ?»«
Bien entendu. Vous n'êtes absolument pas un robot. »«
Qu'en savez-vous ?»«
Joie. Je le sais. Il n'y a rien d'artificiel en vous. Personne n'est mieux placé que moi pour le savoir. »«
N'est-il pas possible que je sois... » si habilement artificiel que sous tous les aspects du plus grand au plus infime détail, je sois indiscernable du naturel?
Si tel était le cas, comment feriez-vous la différence entre moi et un authentique être humain?
Je ne crois pas qu'il soit possible que vous soyez si habilement artificiel.
Et si c'était quand même possible, malgré ce que vous pensez?
Je n'y crois pas, c'est tout.
Dans ce cas, considérons simplement la chose comme un problème d'école. Si j'étais un robot indiscernable, en tant que tel, quel effet ça vous ferait?
Eh bien,
Soyons précis. Quel effet
ça vous ferait de faire l'amour à un robot.
Pellerat fit soudain claquer les doigts de sa main droite.
Vous savez, il y a des légendes de femmes tombant amoureuses d'hommes artificiels et vice-versa. J'ai toujours estimé qu'elles véhiculaient un sens allégorique, sans jamais imaginer que ces contes pouvaient représenter la vérité littérale. Bien entendu, Golan et moi n'avions jamais entendu le terme « robot » avant d'avoir atterri sur Seychelles, mais maintenant que j'y pense, ces hommes et ces femmes artificielles devaient être des robots. Apparemment, de tels robots ont bel et bien existé à l'aube des temps historiques, ce qui veut dire qu'il faudrait reconsidérer les légendes.
Il s'abîma dans une réflexion silencieuse. Et après avoir attendu quelques instants, Joie fit soudain claquer sèchement ses doigts.
Pellerat sursauta. « Pelle chérie, » dit Joie, « vous servez de votre mythographie pour esquiver la question. La question est, quel effet ça vous ferait de faire l'amour à un robot ?»
Il la fixa gênée.
Un robot vraiment indiscernable, qu'on ne pourrait distinguer d'un être humain.
Oui.
Il me semble dans ce cas qu'un robot, qu'on ne peut en aucune manière distinguer d'un être humain, est un être humain. Si vous étiez un tel robot, vous ne seriez rien d'autre qu'un être humain pour moi.
C'est ce que je voulais vous entendre dire, Pelle.
Pelle attendit puis reprit.
Eh bien, dans ce cas maintenant que vous m'avez entendu le dire, chérie, n'allez-vous pas m'avouer que vous êtes bel et bien un être humain naturel et que je n'ai pas à me colter avec d'hypothétiques situations?
Non, je n'en ferai rien.
Vous avez défini un être humain naturel comme un objet doté de tous les attributs d'un être humain naturel. Si me voir posséder tous ces attributs vous satisfait, alors cela met fin à la discussion. Nous avons la définition opératoire et nous n'avons besoin de rien de plus.
Après tout, comment saurais-je que vous n'êtes pas vous non plus un simple robot qui se trouverait être indiscernable d'un être humain?
Parce que je vous ai dit que je n'en étais pas un.
Ah!
Mais si vous étiez un robot indiscernable d'un être humain, vous pourriez être conçu de façon à me dire que vous êtes un être humain naturel, voire programmé pour y croire vous-même. Une définition opératoire, c'est tout ce dont nous disposons, tout ce dont nous pouvons disposer.
Elle lui passa les bras autour du cou et l'embrassa. Le baiser devint plus passionné et se prolongea jusqu'à ce que Pellerat parvint à dire d'une voix quelque peu étouffée.
Mais nous avions promis à Trévis de ne pas l'embarrasser en convertissant ce vaisseau en nid d'amour pour jeunes mariés.
Joie lui répondit enjôleuse.
« Laissons-nous emporter, sans prendre le temps de songer aux promesses. »
Troublé, Pellerat rétorqua.
« Mais je ne peux pas faire ça, chérie. Je sais que cela doit vous irriter, Joie, mais je suis constamment en train de réfléchir et me montre par constitution opposée à me laisser emporter par les émotions. C'est une habitude venue de loin et sans doute fort ennuyeuse pour les tiers. Je n'ai jamais vécu avec une femme qui n'ait tôt ou tard des objections à faire à cela. Ma première épouse... Mais je suppose qu'il serait déplacé de discuter de cela.
Tout à fait déplacé, oui.
Mais pas fatalement. Vous n'êtes pas non plus mon premier amant.
Oh !
Réagit Pellerat quelque peu désemparé. Puis, prenant conscience du petit sourire de Joie, il se ressaisit.
Je veux dire, bien sûr que non, je n'aurais jamais imaginé être... Toujours est-il que ma première femme n'appréciait pas.
Mais moi, si. Je trouve vos interminables plongées dans des abîmes de réflexion absolument fascinantes.
Ça, je ne peux pas y croire. Mais il me vient effectivement une autre pensée. Robot ou humain, peu importe, nous sommes d'accord là-dessus. Malgré tout, je suis un isolat, et vous le savez. Je ne suis pas un élément de Gaïa. Et quand nous sommes dans l'intimité, vous partagez des émotions extérieures à Gaïa, même quand vous me laissez participer de celle-ci durant de brèves périodes. Et il se peut que ce ne soit pas la même intensité d'émotion que vous pourriez éprouver si c'était Gaïa qui aimait Gaïa. Vous aimez Pelle à son attrait propre. Je ne cherche pas au-delà. Mais il ne s'agit pas simplement d'être aimé de vous. Vous n'êtes pas seulement vous-même. Supposez que Gaïa y voit une perversion. Si tel était le cas, je le saurais, car je suis Gaïa. Et puisque j'éprouve du plaisir avec vous, Gaïa, de même, quand nous faisons l'amour, Gaïa tout entière partage la sensation à un degré ou à un autre. Quand je vous dis que je vous aime, cela veut dire que Gaïa vous aime, même si c'est uniquement la composante que je représente qui se voit assigner le rôle immédiat. Vous m'avez l'air perplexe. Étant un isolat, je ne saisis pas tout à fait. Vous pouvez toujours établir une analogie avec le corps d'un isolat. Quand vous sifflez un air, tout votre corps, c'est-à-dire vous en tant qu'organisme, désire siffler un air. Mais la tâche immédiate en est dévolue à vos lèvres, votre langue et vos poumons. Votre gros orteil droit n'y participe en rien. Il pourrait battre la mesure, mais cela n'est pas nécessaire à l'action de siffloter. Taper du gros orteil ne constitue pas l'action en elle-même, mais une réponse à l'action, et sans nul doute, toutes les composantes de Gaïa pourraient aussi bien réagir de telle ou telle autre infime manière à mon émotion, tout comme je réagis aux leurs. Je suppose qu'il est inutile d'en concevoir de la gêne? Absolument. Mais cela me procure un étrange sentiment de responsabilité. Quand j'essaie de vous rendre heureuse, j'ai l'impression de devoir essayer de rendre heureux jusqu'au plus infime organisme vivant sur Gaïa. Jusqu'au plus infime atome. Mais c'est bien ce que vous faites. Vous contribuez à ce sentiment d'allégresse générale que je vous laisse parfois brièvement partager. Je suppose que votre contribution est trop mince pour être aisément mesurable. Mais elle existe bel et bien. Et le savoir devrait accroître votre bonheur. J'aimerais pouvoir être certain que Golan est suffisamment occupé par ses manœuvres dans l'hyperespace pour rester un bon bout de temps dans le poste de pilotage. Vous tenez à votre lune de miel, pas vrai? Oui. Alors prenez une feuille de papier, inscrivez dessus « Nid d'amour pour lune de miel », collez-la sur la porte. Et s'il veut entrer, c'est son problème.
Pelorat s'exécuta. Et ce fut durant les délicieuses opérations qui s'ensuivirent que l'étoile lointaine effectua son saut. Ni Pelorat ni Joie ne s'aperçurent de la manœuvre, qu'ils n'auraient de toute manière pas décelée, y eussent-ils prêté attention.